Chapitre 110. Le bain. À Valvin, sous des voûtes impénétrables d'osiers fleuris, deux saules qui, inclinant leurs têtes vertes, trempaient les extrémités de leur feuillage dans l'onde bleue, une barque, longue et plate, avec des échelles couvertes de longs rideaux bleus, servait de refuge aux dianes baigneuses que guettaient à leur sortie de l'eau 20 actéons empanachés qui galopaient, ardent et plein de convoitise, sur le bord moussu et parfumé de la rivière. Mais Diane, même la Diane pudique, vêtue de la longue chlamyde, était moins chaste, moins impénétrable que madame, jeune et belle comme la déesse. Car, malgré la fine tunique de la chasseresse, on voyait son genou rond et blanc. Malgré le carquois sonore, on apercevait ses brunes épaules. Tandis qu'un long voile 100 fois roulé enveloppait madame, alors qu'elle se remettait au bras de ses femmes et la rendait inabordable aux plus indiscrets comme aux plus pénétrants regards. Lorsqu'elle remonta l'escalier, les poètes présents, et tous étaient poètes quand il s'agissait de madame, les 20 poètes galopants s'arrêtèrent et, d'une voix commune, s'écrièrent que ce n'étaient pas des gouttes d'eau, mais bien des perles qui tombaient du corps de madame et s'allaient perdre dans l'heureuse rivière. Le roi, centre de ses poésies et de ses hommages, imposa silence aux amplificateurs dont la verve n'eut pas tari et tourna bride, de peur d'offenser, même sous les rideaux de soie, la modestie de la femme et la dignité de la princesse. Il se fit donc un grand vide dans la scène et un grand silence dans la barque. Au mouvement, au jeu des plis, aux ondulations des rideaux, on devinait les allées et venues des femmes empressées pour leur service. Le roi écoutait en souriant les propos de ces gentilshommes, mais on pouvait deviner en le regardant que son attention n'était point à leur discours. En effet, à peine le bruit des anneaux glissant sur les tringles eut-il annoncé que madame était vêtue et que la déesse allait paraître, que le roi, se retournant sur le champ et courant auprès du rivage, donna le signal à tous ceux que leur service ou leur plaisir appelait auprès de madame. On vit les pages se précipiter, amenant avec eux les chevaux de main. On vit les calèches, restées à couvert sous les branches, s'avancer auprès de la tente, plus cette nuée de valets, de porteurs, de femmes, qui, pendant le bain des maîtres, avaient échangé à l'écart leurs observations, leurs critiques, leurs discussions d'intérêt, journal fugitif de cette époque dont nul ne se souvient, pas même les flots, miroirs des personnages, échos des discours. Les flots, témoins que Dieu a précipités eux-mêmes dans l'immensité, comme il a précipité les acteurs dans l'éternité. Tout ce monde encombrant les bords de la rivière, sans compter une foule de paysans attirés par le désir de voir le roi et la princesse, tout ce monde fut, pendant 8 ou 10 minutes, le plus désordonné, le plus agréable pêle-mêle qu'on pût imaginer. Le roi avait mis pied à terre, tous les courtisans l'avaient imité. Il avait offert la main à madame, dont un riche habit de cheval développait la taille élégante qui ressortait sous ce vêtement de fine laine broché d'argent. Ses cheveux, humides encore et plus foncés que le jais, mouillaient son cou si blanc et si pur. La joie et la santé brillaient dans ses beaux yeux. Elle était reposée, nerveuse, elle aspirait l'air à longs traits sous le parasol brodé que portait un page. Rien de plus tendre, de plus gracieux, de plus poétique que ces deux figures noyées sous l'ombre rose du parasol. Le roi, dont les dents blanches éclataient dans un continuel sourire, madame, dont les yeux noirs brillaient comme 2 escarboucles, aux reflets mi-cassés de la soie changeante. Quand madame fut arrivée à son cheval, magnifique à quenée andalouse, d'un blanc sans tache, un peu lourde peut-être, mais à la tête intelligente et fine, dans laquelle on retrouvait le mélange du sang arabe, si heureusement uni au sang espagnol, à la longue queue balayant la terre, comme la princesse se faisait paresseuse pour atteindre l'étrier, le roi la prit dans ses bras, de telle façon que le bras de madame, se trouva comme un cercle de feu au cou du roi. Louis, en se retirant, effleura involontairement de ses lèvres ce bras qui ne s'éloignait pas. Puis, la princesse ayant remercié son royal écuyer, tout le monde fut en selle au même instant. Le roi et madame se rangèrent pour laisser passer les calèches, les piqueurs, les courriers. Bon nombre de cavaliers, affranchis du joug de l'étiquette, rendirent la main à leurs chevaux et s'élancèrent après les carrosses qui emportaient les filles d'honneur, fraîches comme autant d'orcades autour de Diane, et les tourbillons, riant, jasant, bruissant, s'envolèrent. Le roi et madame maintinrent leurs chevaux au pas. Derrière sa majesté et la princesse, sa belle-sœur, mais à une respectueuse distance, les courtisans, graves ou désireux de se tenir à la portée et sous les regards du roi, suivirent, retenant leurs chevaux impatients, réglant leur allure sur celle du coursier du roi et de madame, et se livrèrent à tout ce que présente de douceur et d'agrément le commerce des gens d'esprit, qui débitent avec 1000 courtoisies, 1000 atroces noirceurs sur le compte du prochain. Dans les petits rires étouffés, dans les réticences de cette hilarité sardonique, monsieur, ce pauvre absent, ne fut pas ménagé. Mais on s'apitoya, on gémit sur le sort de De Guiche, et, il faut l'avouer, la compassion n'était pas là déplacée. Cependant, le roi et madame, ayant mis leurs chevaux en haleine et répété 100 fois tout ce que leur mettaient dans la bouche les courtisans qui les faisaient parler, prirent le petit galop de la chasse, et alors on entendit résonner, sous le poids de cette cavalerie, les allées profondes de la forêt. Aux entretiens à voix basse, aux discours en forme de confidence, aux paroles échangées avec une sorte de mystère, succédèrent les bruyants éclats. Depuis les piqueurs jusqu'au prince, la gaieté s'épandit. Tout le monde se mit à rire et à s'écrier. On vit les pies et les jets s'enfuir avec leurs cris gutturaux sous les voûtes ondoyantes des chênes. Le coucou interrompit sa monotone plainte au fond des bois. Les pinsons et les mésanges s'envolèrent en nuées, pendant que les daims, les chevreuils et les biches bondissaient, effarés, au milieu des halliers. Cette foule répandant, comme entraînée, la joie, le bruit et la lumière sur son passage, fut précédée, pour ainsi dire, au château, par son propre retentissement. Le roi et madame entrèrent dans la ville, salués tous deux par les acclamations universelles de la foule. Madame s'empressa d'aller trouver monsieur. Elle comprenait instinctivement qu'il était resté trop longtemps en dehors de cette joie. Le roi alla rejoindre les reines. Il savait leur devoir, à une surtout, un dédommagement de sa longue absence. Mais madame ne fut pas reçue chez monsieur. Il lui fut répondu que monsieur dormait. Le roi, au lieu de rencontrer Marie-Thérèse, souriante comme toujours, trouva dans la galerie Anne d'Autriche qui, guettant son arrivée, s'avança au-devant de lui, le prit par la main et l'emmena chez elle. Ce qu'ils se dirent, ou plutôt ce que la reine-mère dit à Louis XIV, nul ne l'a jamais su. Mais on aurait pu bien certainement le deviner à la figure contrariée du roi à la sortie de cet entretien. Mais nous, dont le métier est d'interpréter, comme aussi de faire part au lecteur de nos interprétations, nous manquerions à notre devoir en lui laissant ignorer le résultat de cette entrevue. Il le trouvera suffisamment développé, nous l'espérons du moins, dans le chapitre suivant.